Point Route avec les cours Legendre. Cours à domicile, stages de révision et cahiers de vacances par des professeurs de l'éducation nationale. Info, cours-legendre.fr.
Adèle Bossard, il y a des difficultés au sud de Paris.
Oui, l'autoroute A6B est coupée dans le sens nord-sud sur 3 km entre L'Haÿ-les-Roses et Vissous. Après une sortie de route d'un poids lourd et de manière générale, la circulation est compliquée ce matin à cause de la pluie en Île-de-France. On a déjà plusieurs accidents dans la région. Attention également à cet accident dans l'Hérault sur l'A9 en direction de l'Espagne à hauteur de Metz. Deux des trois voies de circulation sont fermées, ça génère 3 km de ralentissement. Et puis l'une des voies est fermée aussi sur l'A4 en direction de Strasbourg au niveau de Reims.
Soyez les bienvenus sur France Inter. Aujourd'hui c'est samedi, les 4 tops sur France Inter. Il est 8h. Le journal, bonjour Virginie Pironon.
Bonjour Eric, bonjour à tous. Les deux otages français libérés au Burkina Faso de retour en France aujourd'hui. Attendus en fin d'après-midi à l'aéroport militaire de Villacoublay, un hommage national sera rendu mardi aux Invalides, aux deux soldats d'élite morts durant l'opération. Opération très délicate sur laquelle vous revenez ce matin avec vos invités, Eric Dalbon.
Oui, deux spécialistes, Antoine Glaser, spécialiste de la géopolitique africaine, également Pierre Servant, spécialiste des questions de défense. Rendez-vous donc tout à l'heure à partir de 8h20.
Dans l'actualité ce matin également, le projet de loi sur la restauration de Notre-Dame, adopté cette nuit à l'Assemblée. Les cadres de la société Uber qui ont fait résonner la cloche de Wall Street à New York. Nous serons aussi au salon Taste of Paris, au Grand Palais, où les grands chefs font déguster leurs plats à des prix imbattables. Et puis la fête hier soir à Brest, le club retrouvera la Ligue 1 de football la semaine prochaine, l'année prochaine. En rugby, Clermont remporte la petite Coupe d'Europe. On y revient dans 10 minutes dans le journal des sports.
France Inter.
C'est toute la difficulté lors de ce genre d'opération, saisir le bon moment pour passer à l'action. On en sait un peu plus ce matin sur ce qui s'est précisément passé dans le nord du Burkina Faso dans la nuit de jeudi à vendredi. 10 jours après l'enlèvement des deux otages français, les terroristes font leur première halte, c'est la nuit. Les ravisseurs sont réfugiés avec les otages dans 4 abris de fortune, très vite cernés par une vingtaine de soldats d'élite. Les détails de cette opération, c'est le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, qui nous les raconte.
Au moment où les commandos vont être détectés, ils sont à une dizaine de mètres des abris. Ils entendent les ravisseurs terroristes armer leurs armes à l'intérieur des abris. Ils décident donc de monter à l'assaut des objectifs, mais ils montent à l'assaut sans ouvrir le feu pour être certains de ne pas faire de pertes chez les otages, ni de pertes chez d'éventuels civils ou membres des familles des terroristes qui seraient présentes dans ce campement. C'est lors de cette pénétration dans deux de ces abris que les deux commandos marines, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, ont été tués à très courte distance par deux des ravisseurs.
Et un hommage national sera rendu aux deux commandos marines mardi matin aux Invalides. Le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, qui sera en fin d'après-midi à Villacoublay aux côtés d'Emmanuel Macron à l'arrivée des deux otages français ainsi que d'une sud-coréenne libérée à leur côté. Sur l'opération qui a également permis la libération d'une otage américaine, la ministre des armées, Florence Parly, souligne un véritable exploit. Toute la nation s'incline devant la bravoure des deux militaires, déclare-t-elle. Une opération spectaculaire qui témoigne peut-être d'un changement de doctrine de la part de l'État français vis-à-vis des otages, car cette fois, Franck Madvon, il en serait bel et bien terminé des rançons versées aux terroristes.
Officiellement, la France n'a jamais payé de rançon pour ses otages. En réalité, Paris a souvent accepté de mettre la main au portefeuille pour sauver la vie de ses ressortissants, par exemple en Syrie ou en Afrique, au Sahel. En 2014, une enquête du New York Times montrait que les groupes djihadistes, en particulier Al-Qaïda et ses filiales, avaient récolté 125 millions de dollars en 6 ans grâce au business des otages, dont 60 millions déboursés par la France. À l'inverse, d'autres pays, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, ont toujours assuré qu'ils refusaient de payer toute forme de rançon. Pas question de financer le terrorisme. Une doctrine controversée, des familles ont protesté, celle de James Foley par exemple, l'Américain tué en août 2014 en Syrie. En 2013, la France a, semble-t-il, changé de doctrine. Le président François Hollande a affirmé que Paris ne payait pas de rançon pour la famille de la dernière otage française dans le monde, Sophie Pétronin, enlevée au Mali. Cette doctrine ferme la porte aux négociations. L'intervention armée est alors la seule option.
Et au Mali, justement, 4 civils ont été tués hier par des hommes armés dans le centre du pays, toujours sous la coupe de groupes djihadistes.
Aucune opération de restauration de monuments historiques n'avait encore donné lieu à une telle adaptation législative.
Les mots du ministre de la Culture, Franck Riester, hier soir. Le projet de loi sur la restauration de Notre-Dame, adopté cette nuit à l'Assemblée nationale en première lecture. Les délais réduits et les dérogations envisagées, notamment sur les règles d'urbanisme, ont une nouvelle fois fait l'objet de débats très animés. Le texte doit maintenant être transmis au Sénat, où il sera examiné le 27 mai. Le 27 mai, lendemain des élections européennes, dans cette ligne droite, La République En Marche tente de passer à la vitesse supérieure. Toute bonne volonté bienvenue, à commencer bien évidemment par le gouvernement. Après quand, lundi, Édouard Philippe participera ce soir à un meeting à Strasbourg. À ses côtés, un ex-premier ministre, Jean-Pierre Raffarin. Objectif, tenter de conserver l'électorat de centre-droit qui pourrait être tenté de revenir à ses fondamentaux, comme l'ont déjà fait certains maires, Arnaud Robinet, Jean-Luc Moudin ou encore Christian Estrosi, tous revenus ces derniers temps sous la bannière Les Républicains, nous explique le politologue Jérôme Fourquet.
Ces personnalités ont été assez tangentes et assez tentées pendant tout le début du quinquennat. Là, aujourd'hui, elles semblent retourner plus franchement dans le giron de la droite classique. Et donc, il faut faire monter en première ligne les rallier pour rendre plus palpable et plus concret le ralliement de toute une partie de l'électorat de droite à la candidature de La République En Marche. Ça va se jouer sur quelques points de pourcentage dans les résultats, mais ces quelques points peuvent faire passer la liste Renaissance en dessous des 20% et peuvent permettre de faire passer François-Xavier Bellamy et sa liste autour de 13-14% à un étiage qui les rapprocherait des 16, 17 ou 18%. Donc ces quelques points sont tout à fait décisifs pour les macroniens pour essayer d'être en tête et de résister à l'offensive frontiste. Et donc c'est pour ça qu'à côté de l'offensive écologiste, on a toujours la volonté de, dans la majorité présidentielle, s'adresser à cet électorat de droite modéré qui aujourd'hui est moins séduit qu'il a pu l'être.
Jérôme Fourquet, directeur du département opinion à l'IFOP avec Élodie Forêt.
Des débuts décevants hier pour la société Uber, désormais coté à Wall Street.
Baptême boursier plutôt raté pour le leader mondial de la réservation de voitures avec chauffeur. Prix initial de l'action, $45. Il a chuté à un peu moins de 42 à la clôture. Uber, souvent critiqué, attaqué pour son modèle social, est une entreprise qui perd de l'argent. Mais hier, à l'ouverture de la bourse, un voile pudique a été jeté sur tout ça. Reportage à New York, signé Loïc Loury.
Une bannière géante aux couleurs d'Uber. La célèbre façade du New York Stock Exchange avait été redécorée pour l'occasion. Il n'en fallait pas moins pour ce baptême boursier à près de $80 milliards. Et comme le veut la tradition, ce sont les cadres de l'entreprise qui ont fait sonner la cloche de début de séance hier matin à Wall Street. À l'extérieur, une nuée de caméras pour ce qui restera comme l'une des séances de l'année. Le PDG du groupe, Dara Khosrowshahi, affiche lui un visage confiant pour cette entrée en bourse plus prudente que prévu.
Valoriser une entreprise, c'est un art, pas une science. Alors ce ne sera certainement pas parfait, mais nous pensons que ce prix reflète l'environnement actuel. Et l'environnement est incertain en ce moment. Et quand le marché est incertain, les investisseurs sont un peu hésitants.
Objectif pour Uber, lever près de $8 milliards avant de les réinjecter de façon agressive dans les activités du groupe, affirme son patron. L'opération pour son concurrent Lyft ne s'est pas franchement bien passée. Son action à $72 fin mars n'en vaut plus que 51 aujourd'hui. Uber, pour cette première séance, a perdu près de 8%. New York, Loïc Loury, France Inter.
Aux États-Unis toujours, Donald Trump maintient une pression maximale sur la Chine et met à exécution la menace qu'il brandit depuis plusieurs mois. Le président américain a ordonné hier soir à ses services de lancer les procédures pour imposer des droits de douane sur la quasi-totalité des importations de produits chinois. Les négociations se poursuivent, affirme Pékin de son côté.
À Paris, c'est le festival probablement le plus attendu des gourmets. Taste of Paris a ouvert ses portes jeudi au Grand Palais.
Les plats des plus grands chefs français à prix mini. Thierry Marx, Christophe Michalak, Pierre Hermé, pour ne citer qu'eux, proposent de petites portions de leurs meilleures recettes, comptées entre 6 et 12 euros la part. De quoi se réveiller les papilles à prix très abordable, Sébastien Savion.
Un filet de bœuf grillé sous les verrières du Grand Palais, l'image est insolite, le fumet aussi et chaque stand invite à la découverte.
On a mangé le petit burger bœuf de Ida.
Un velouté d'asperges à la glace à la truffe.
Du saumon, crème de wasabi et caviar.
Donc des perles du Japon de Frédéric Anton.
Frédéric Anton, 3 étoiles au Michelin, ravi de pouvoir faire découvrir sa cuisine.
C'est pas des plats que j'ai fait uniquement pour l'événement, c'est des plats qui sont faits au Précatelan et que l'on sert. C'est faire venir les gens et qu'ils puissent déguster la cuisine du 3 étoiles parce que ils n'ont pas eu l'occasion, ils n'ont pas les moyens, donc on leur permet de pouvoir déguster ces plats.
On y va s'il vous plaît les gars avec une asperge.
Michel.
Pour Juan Arbelaez, jeune chef colombien, Taste of Paris permet de dénicher dénicher de nouveaux clients, mais pas seulement.
Ça décomplexe un peu la gastronomie, ça lui donne un côté plus accessible, un côté moins prise de tête. Il y a aussi une capacité de transmission qui est géniale. Il y a les enfants, il y a des familles, le contact est vraiment instantané, donc c'est dingue.
Et les visiteurs apprécient.
Ah, moi, je trouve ça génial parce que ça permet de manger des plats on n'a pas forcément l'habitude de manger à des prix raisonnables, dans une ambiance hyper conviviale.
Malheureusement, je ne vais pas manger dans un restaurant étoilé parce que le budget est trop conséquent. Ici, c'est un compromis assez avantageux.
Comptez tout de même un budget de 50 euros minimum pour pouvoir déguster plusieurs plats.
Taste of Paris, c'est jusqu'à demain soir au Grand Palais. Près de 30 000 visiteurs sont attendus. Des gourmets qui pourront accompagner leurs plats de vin, voire de bière, pourquoi pas. Et cette plainte étonnante aux États-Unis de la part du groupe des Guns N' Roses. Quel lien avec la bière, me direz-vous? Eh bien, les rockers portent plainte contre un brasseur du Colorado qui a eu la mauvaise idée, selon eux, de nommer une de ses bières Guns N' Roses. Le groupe californien parle d'un dommage irréparable, Eric. Pourtant, ça a sonné pas mal à nos oreilles, ça, Guns N' Roses.
Faites sauter les bouchons. On va prendre. C'était le journal de Virginie Pironon.